Nous avons surtout parlé du Luxembourg et de la place du Luxembourg en Europe. Le pape s'est montré très intéressé par la façon luxembourgeoise qu'il y a d'intégrer un nombre élevé d'immigrés. Le Luxembourg connaît un taux d'immigration de 40%. Nous nous sommes entretenus de l'Europe en marche et de la finalité même de l'Europe. Nous avons évoqué entre nous un certain nombre de sujets qui sont d'actualité au Luxembourg. Une loi sur la médecine palliative, une loi sur l'euthanasie active, où j'ai expliqué au pape que la petite société luxembourgeoise est traversée par de nombreux courants et par de nombreuses sensibilités qu'il faudra qu'elles arrivent à se respecter entre elles-mêmes. Nous avons parlé de l'Église qui est à Luxembourg, de sa position au milieu de la société luxembourgeoise. Bref, un entretien qui a porté sur un nombre varié de sujets. C'était un entretien des plus amicaux. Le pape est un homme d'une large érudition, mais tout de même un homme simple et modeste, ce qui est une façon de dire que le pape est sympathique.
À l'heure où l'on parle beaucoup du fossé qui se creuse entre une partie de la population qui, entre guillemets, a de plus en plus de difficultés à boucler les fins de mois et une autre partie de la population qui s'enrichit, qui fait du profit, comment concilier au sein de l'Europe, comment faire en sorte que l'Europe soit forte, notamment d'un point de vue monétaire, mais tout en conservant une certaine éthique ?
Moi, j'ai longuement évoqué avec le pape la doctrine sociale de l'Église, enseignement de l'Église, dont je dis souvent qu'il est la seule partie vraiment incontestable de l'enseignement de l'Église. Le pape est en train de préparer une nouvelle encyclique sociale et se prendra place dans l'impressionnante lignée de ses prédécesseurs qui ont voué des travaux et des réflexions à ce vaste sujet. Et il est vrai qu'en Europe comme ailleurs, mais en Europe c'est un peu plus prononcé, nous voyons comme une catégorisation intersociétale qui est en train de se faire. Ceux qui gagnent beaucoup, qui gagnent facilement leur vie, qui sont attirés par le goût de l'argent facile, toutes sortes de spéculations financières qui nous font plus de mal que de bien, et puis ceux qui s'éloignent de plus en plus du bien-être social, deviennent pauvres, se trouvent dans une situation précaire, se voient être fragilisés dans leur contrat de travail et donc dans leur perspective de vie. Et je crois que l'Europe doit inventer une nouvelle solidarité sociale. Ne pas croire béatement tous ces discours néolibéraux qui veulent atteindre un stade du développement social qui se caractérise par une absence de gêne, qui n'admet aucune borne, qui n'accepte plus la règle normative qui doit être posée pour protéger les faibles par les États. Et je crois que sur ce point, la pensée du pape n'est pas très armé de celle que je suis en train de vous exposer comme étant la mienne.
Suite au scandale impliquant le Liechtenstein, l'Union européenne est en train de repenser la réglementation en matière de fiscalité de l'épargne. Est-ce que vous êtes favorable à une réforme ?
J'ai été parmi ceux qui ont contribué à la mise en place d'une directive européenne sur la fiscalité de l'épargne. Nous n'en avions pas avant 2003. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2005 et elle couvre surtout les produits de l'épargne, mais ne couvre pas tous les produits bancaires. Il y a maintenant une réflexion en cours qui vise à étendre le champ d'application de cette directive en la prolongeant vers d'autres produits financiers et bancaires. Mais la Commission, avant que nous puissions nous lancer dans un débat de ce type, doit produire un rapport sur l'application de la directive telle qu'elle a été mise en vigueur. Ce rapport n'a pas encore été produit. Nous l'attendons, nous l'avons demandé. Et lorsque ce rapport aura été produit par la Commission européenne, nous examinerons dans quelle mesure il est nécessaire d'étendre le champ d'application de la directive. Et si jamais on devait l'étendre, ce à quoi je ne m'oppose pas d'une façon systématique, il faudrait qu'elle inclue dorénavant dans son champ d'application tous les produits financiers qui méritent une approche harmonisatrice en Europe, et qui concerne des produits qui ne sont pas des produits spécifiques pour les places financières belges ou luxembourgeoises ou autrichiennes, trois pays qui appliquent une retenue à la source et non pas l'échange d'informations, mais qui doivent englober également des produits financiers qui sont plus présents sur d'autres places financières, comme les traces du Royaume-Uni, comme le régime des expatriates au Royaume-Uni. Donc, toute une panoplie de produits bancaires et financiers qui doit trouver considération, tout comme il s'agira d'étendre la réflexion vers l'imposition des sociétés qui mériteraient qu'en Europe, nous nous mettions d'accord sur une base d'assiette fiscale harmonisée.
Une dernière question, si vous le permettez. Lors de son élection, vous aviez félicité Benoît XVI en l'encourageant à relever un certain nombre de défis sociaux et moraux. En tant que Premier ministre luxembourgeois, en tant que directeur de l'Eurogroupe, comment contribuez-vous à relever ces défis ?
Mais je crois que le ministre des Finances que je suis et le responsable européen que je suis, lorsqu'il s'agit d'organiser la bonne entente entre la politique monétaire et la politique économique, tout doit être fait par les gouvernements européens pour faire en sorte que nos sociétés européennes restent des sociétés solidaires. Il faut savoir dire non aux égoïsmes collectifs nombreux qui sont en train de prendre place. Il s'agit de défendre le modèle social européen, la façon européenne de vivre ensemble. Il faudra toujours avoir à l'esprit que chaque jour, à travers le monde entier, meurent 25 000 enfants de faim. Tant que chaque jour 25 000 enfants meurent de faim, l'Europe n'a pas réussi à faire tous ses devoirs. Je crois que les devoirs qui sont à l'extérieur de l'Europe sont aussi importants pour l'Europe que les devoirs intra-européens auxquels nous devons faire face.